présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junière. Les conspirateurs, mise en scène, production de Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Juste, qui n'a pas l'impression de toucher le jeu inconnu. En passant devant un jardin, il voit un WC public, il y rentre, il ferme la targette. Ça sent mauvais. La porte en fer est rouillée par le bas et trouée. WC turc, rempli de merde, ça a même débordé. Sur les murs, à terre, il y a du papier journal souillé. La chasse d'eau fuit. La lampe du haut est entourée de toiles d'araignée. Les murs sont pleins d'inscriptions, de dessins obscènes. Cela le dégoûte. Mais il voit contre un mur, dessiné au feutre rouge, un énorme sexe masculin, dessiné d'une façon très réaliste. Ce dessin lui redonne l'excitation et lui rappelle le jeûne. Alors, il ouvre sa fermeture éclair, sort son sexe et se masturbe en regardant le dessin, en rêvant au jeûne. Comme cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas masturbé en pensant à quelqu'un, ça a été très fort. Puis, il a joui, s'est nettoyé avec son mouchoir, rhabillé et sorti. Derrière la porte se trouvait un homme qui le regardait d'un air narquois. Il a juste le temps de voir qu'il était grand, mince, cheveux châtains, habillé d'un costume noir, qui se sauve en courant. En courant. Il se sent épuisé, dégoûté. Comment a-t-il pu descendre si bas? Lui, si poli, timide, suivant un inconnu, et cet endroit souillé, lui qui ne supporte pas les odeurs, quelle honte, quelle honte. Patrick, quelle honte. Il est entré chez lui avec seulement une demi-heure de retard. Il croyait que cela avait duré des heures. Il retrouve sa mère comme à l'accoutumée qui lui a ouvert. La bonne va chercher ses enfants à la sortie de l'école à cette heure-ci. Tu es en retard. J'ai discuté un peu devant le lycée. Évite de rentrer tard. Tu sais que ton père et ton frère veulent dîner tôt. Je n'ai pas vu l'heure. Et il va dans sa chambre. Retrouve cette pièce comme à l'accoutumée. Il va s'asseoir à son bureau. Et se dit honteux. Je suis tout aussi dégueulasse que les autres. Je ne suis pas pur. La nuit, dans son lit, il repense au jeûne qui l'a suivi et la scène de l'allée. Cela l'étonne tellement qu'il se met à dire avec rage « J'en ai assez, mon Dieu. Faites en sorte à ce que ce désir cesse. Je ne le veux plus. Combien de temps cela va-t-il durer ?» Résiste un moment, puis cède. L'image de l'inconnu est plus forte. Un jour, il se rend compte que ce qu'il aime n'est pas comme les autres. Alors il en souffre et se dit qu'il faudra toujours se cacher. Malheureusement, à chaque fois qu'il sort du lycée, sur le chemin du retour, malgré lui, il est obligé de suivre certains jeux. La plupart du temps, cela ne dure que quelques minutes, soit qu'ils entrent de suite dans une allée, soit qu'ils prennent le car. Il n'en suit qu'un par le trajet, jamais deux. Cela l'excite énormément et cherche à s'enivrer de l'image de l'inconnu. Se masturbe en pensant à l'inconnu suivi. Tout cela l'attriste beaucoup, mais il ne peut faire autrement. Il a beau baisser sa croix, se dire qu'il n'aime vraiment que Patrick, cela n'y fait rien. Son âme est pas à Patrick, son corps est à tous les autres. Il aime tous ces beaux jeunes gens, à l'allure mince, juvénile, au visage encore enfant. Il les désire et en même temps aimerait être eux. Car il ne s'aime pas, se croit laid, difforme. Il ne se regarde jamais dans la glace pour se raser. Il suit le rasoir, mais ne voit pas son visage. Cette tristesse ne peut être belle. Ce désir d'être beau, l'être, et désirer posséder ces jeunes gens comme il aimerait posséder leur beauté. Le lycée c'est fini. Il en regrette un peu car maintenant il va falloir poursuivre ses études mais en se spécialisant. Son père veut qu'il lui succède donc il faut qu'il fasse des études pour être ingénieur chimiste. Il voudrait faire lettres, écrire ou faire du cinéma mais il n'en est pas du tout question. Un jour, sa mère s'aperçoit que son fils a grandi, qu'il n'est plus un jeune adolescent de 15 ans, mais presque un jeune homme. En prenant son thé avec lui, elle lui dit « Tu es presque un jeune homme maintenant. Il va falloir songer à ton avenir. Il faudra que je te présente à quelques amis. » Il faut que tu fasses ton entrée dans le monde, comme on disait avant. Émile est effrayé. Elle poursuit. Mercredi après-midi, tu resteras avec moi pour mon thé. C'est le jour où elle reçoit. J'aime mieux pas. Et pourquoi? Je ne connais pas tes amis et je ne saurais quoi leur dire. Tu apprendras. Il est temps que tu apprennes à te tenir dans le monde. mercredi après-midi, Émile se trouve au salon, assis près de sa mère, qui reçoit pour le thé quelques dames de sa connaissance. Tout habillé, dans des tailleurs façon Chanel, même coiffure impeccable, boucle d'oreille en or et collier. Ce sont des amis d'enfance de sa mère, des femmes d'industriels dont leurs maris sont en affaires avec leur père. Toutes ces dames, alors que leurs maris sont au travail, passent leur temps au coiffeur, salon de beauté, magasin, et l'après-midi à 15h, se reçoivent les unes chez les autres. Cela sert aussi les maris, car chaque fois qu'un mari est en affaire avec l'un, il demande à sa femme d'aller voir la femme de l'autre. Elles ont entre 45 et 50 ans, ont eu la même éducation et ont les mêmes soucis. Donc, lorsqu'elles se voient, elles ont toujours les mêmes conversations. C'est comme dans les usines chez les ouvriers, qui eux ont la même vie, se parlent entre eux des mêmes choses. Pour les ouvriers, c'est la télé, le tiercé, la voiture, la machine à laver en panne et les ennuis mécaniques au travail. Pour elles, ce sont les emplois du temps, leur mari, leur voyage, le coiffeur, la mode, la bourse, le manque de temps pour aller voir tout le monde. Oh, quelle corvée! Cet après-midi, Lila, il y avait 5 dames autour d'Émile et de sa mère. Une en tailleur blanc, Madame de Hautebeur. Une en tailleur vert, Madame de Courcelles. Une en tailleur bleu, Madame Dutour. Une en tailleur rose, Madame Lafont. Une en tailleur jaune, Madame Philibert. La mode était aux blonds cendrés, elles étaient toutes blondes cendrées. La bonne est passée pour le thé et les petits fours. Toutes ces dames regardent Émile. Pour une fois qu'il y a quelque chose de nouveau dans leur réunion, Émile se sent gêné et rougi. Il ne sait où poser ses regards. Elle lui sourit en battant des paupières. Émile se sent laid, bête. Il aimerait disparaître. Et ce costume ridicule que sa mère lui a fait mettre, un costume croisé marine. Il a l'air engoncé dans ce vêtement. Il se dit qu'il lui manque plus que des lunettes et des dents en avant pour paraître complètement débile. Madame de Hautebeur pose sa tasse sur la table basse. Tout saute et dit « Alors ce jeune homme est votre grand-fils ?»« Oui, il a quel âge ?»« Bientôt 20 ans. » C'est un beau garçon. Et que va-t-il faire plus tard? Il succédera à son père. Il a l'air gentil. Émile se sent humilié. On le traite comme un bébé qui ne peut répondre lui-même. À 20 ans, se faire dire qu'il a l'air gentil comme si c'était un gamin. Il a envie de mordre, gifler. Alors pour leur prouver qu'il n'est plus un gamin, Madame de Philibert dit « C'est difficile d'éduquer un enfant à notre époque. » Sa mère répond « Mais celui-là est très sage. » Madame de Philibert regarde bien Émile et dit « Ah là, oui, bien sûr. » Madame Lafont, tout excité, dit
« Alors, comme cela, il va succéder à votre mari ?»«
Oui, Madame de Hautbord dit, j'amènerai ma fille. » Madame de Courcelle dit « Moi aussi, et mon mari serait enchanté de connaître ce charmant jeune homme. » Madame du Tour dit « Mon mari serait enchanté de la voir dans une de ses parties de voile ou de volley-ball. » Je n'ai pas de fille, mais un fils très bien. » Émile se dit, ceci est prête à me donner son fils pour favoriser les affaires de son mari. Elle me voit déjà toute succéder à mon père et ma mère qui jubile de plaisir. Se continue en sourire, gantri. Chacune veut s'occuper de ce beau jeune homme. Elle trouve toutes des qualités. À la fin, une fois qu'elles sont parties, sa mère est enchantée.
Tu as été merveilleux, merveilleux. Tu as fait une impression extraordinaire. Je suis fière de toi, mon fils.
Et pour la première fois, elle l'embrasse sur les joues. Il lui dit,
mais j'ai été ridicule. Je n'ai rien dit et vous m'avez traité comme un gosse. Tu as été comme un jeune homme bien élevé. Ne te fais pas de soucis. Mercredi prochain, tu verras. Elles vont toutes amener leurs filles.
Elles cherchent à lier notre famille avec la nôtre par mon mariage.
Je ne viendrai pas à ton thé mercredi prochain.
Je ne suis pas un pantin.
Tu viendras, je le veux.
Tu ne peux pas leur faire cet affront.
Tu te rends compte que si tu refuses de venir, elles risqueraient de se forcher et adieu, ce sera la faillite.
Je croyais que c'était tes amis.
Oui, bien sûr, mais ce sont avant tout les femmes des industriels qui travaillent avec ton père.
Bien, je viendrai. Mais je ne dirai absolument rien, rien, rien.
Et le mercredi suivant, Madame de Hautbord a amené sa fille, ou plutôt la fille de sa sœur, Fleur. C'est une charmante jeune fille de 18 ans, grande, mince, bien, le teint très clair. Elle est belle et élégante, habillée d'une petite robe toute simple, blanche. Émile la trouve discrète et réservée. Il trouve qu'elle a la beauté calme d'une madone. La fille de Madame de Courcelles a 22 ans, grande, bien en chair, mais pas grosse, les cheveux blonds tombant en boucle. La bouche et le visage poupon, habillée d'une robe courte rouge, elle se sait attirante. Sa féminité, tout en chair, dégoûte Émile. Madame du Tour est venue avec son fils, Charles-Henri, un grand jeune homme tout en os, avec des cheveux en brosse et des lunettes, habillé d'un costume gris. Il semble encore plus timide qu'Émile. Et zozote pour parler. Émile est dégoûté par lui, et sent la pharmacie et a des boutons sur la figure. Pour s'asseoir, ça a été toute une histoire. Chacun voulait s'asseoir à côté d'Émile. En fin de compte, c'est Charles-Henri et son odeur de suppositoire et de pommade qui a eu la chaise. Les deux filles se sont mises en face de lui. Émile se dit, elles ont reçu des ordres.
Charles-Henri entame la conversation.
Vous faites quoi, Clotilde ?
Je prépare un diplôme d'ingénieur.
Quoi ? Je fais Sciences Po.
Je veux me lancer dans la politique.
Mon père dit que c'est une bonne carrière,
qu'il suffit de trouver un bon parti pour vous lancer.
Je vais me mettre dans celui de la majorité pour être sûr d'avoir un poste.
C'est son rire.
Les mères sourient d'une façon gênée. Émile voit que Fleur semble s'ennuyer autant que lui. Il se dit qu'elle doit être intelligente. Quant à l'autre, Pascal, elle lui envoie des sourires béats, comme une madone qui sait ce qu'on lui doit comme hommage. La bonne, en servant le thé, a renversé maladroitement du thé sur la robe de Fleur.
Oh !
La mère d'Émile, furieuse.
Petite idiote, regardez ce que vous avez fait.
Pardonnez, madame, je vais réparer.
Non, laissez, continuez à servir.
Émile, mon chéri, mène-la à la salle de bain, cette demoiselle, et aide-la.
Toutes ces dames la regardent. Cela ne se fait pas.
C'est à la mère à aider la jeune fille et non au fils. Quel manque d'éducation!
Émile se lève.
Si vous voulez me suivre, mademoiselle.
La fille regarde sa mère qui lui fait signe d'y aller. Elle se lève.
Ils sortent du salon.
Émile la conduit à la salle de bain.
Ils sont entrés. Il va lui donner un détachant.
Merci.
Et elle va s'asseoir sur un tabouret. Pendant qu'elle nettoie sa robe, Émile lui dit, car il la trouve très sympathique.
Vous semblez vous ennuyer.
Oh oui, j'aime pas du tout ces réunions. Je trouve tout ça stupide.
Il lui dit, moi aussi, c'est ma mère qui a voulu absolument que je sois là.
Elle lui dit, moi aussi. Elle avait dû vous dire que j'étais le fils du père à marier.
Oui, en quelque sorte. Mais ne craignez rien, j'ai déjà quelqu'un.
Et lui, il lui dit, « Et moi, je ne vous aime pas, je vous trouve très belle, charmante, bien sur tout rapport, mais vous n'y êtes pour rien. Je suis comme ça, je ne pourrai jamais, vous comprenez ?»
Elle lui dit, « Je comprends, j'aime mieux cela, comme cela, nous pourrons devenir amis.
Oui, je veux bien. »
Cela ne doit pas être facile pour vous.
L'on doit vouloir à tout prix vous marier.
Il lui dit, oui, je sais, je suis un héritier.
Ce n'est pas drôle.
Elle lui dit, j'ai une idée. Si vous voulez, pour être tranquilles tous deux,
en bons amis bien entendu,
nous allons leur faire croire qu'on se fréquente.
Comme cela, ils nous laisseront tranquilles.
Et lorsqu'ils croiront que nous sommes ensemble, nous serons ailleurs.
D'accord ?
D'accord.
Alors, ami ?
Ami.
Elle l'embrasse.
Elle lui dit,
il faut les retrouver.
Vous avez vu la grosse, comme elle vous lorgne ?
Oui, et c'est ridicule. Et ils sortent de la salle de bain. Désormais, plusieurs fois par semaine, Émile et Flore se téléphonent, ce qui enchante les deux familles. Ils se disent au téléphone des blagues et des moqueries des gens qu'ils connaissent. De temps en temps, ils vont au cinéma ensemble. Et lorsque Flore a besoin de se libérer pour voir son amoureux, elle pense à Émile, le prévient, et ils font semblant de sortir ensemble, ce qui enchante encore plus la famille. Pendant que Fleur va de son côté, Émile se promène seul ou va au cinéma. Ils sont plus libres, tous les deux. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique, scénario original de Julien Jean-Pierre, Les Conspirateurs, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.